Léon Tolstoï a écrit un célèbre et gigantesque ouvrage intitulé « Guerre et paix ». C'est la chronique de deux familles de la noblesse russe vue au travers des campagnes napoléoniennes. « Guerre et paix » décrit bien l'histoire des peuples, mais aussi des individus qui souvent, dans leur vie, sont engagés dans des querelles de tout ordre. Voilà pourquoi Salomon écrit « Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. » Proverbe 15, verset 17. Cette pensée lui tient tellement à cœur qu'il la répète un peu plus loin. Je commence maintenant à lire le chapitre 17 du livre des Proverbes. « Mieux vaut n'avoir qu'un croûton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup, tout en se querellant. » Proverbe 17, verset 1er. Dans l'ancien Israël, un repas familial et parfois communal fait suite au sacrifice de reconnaissance à l'Éternel. Ces festins, où on fait bonne chère et qui sont bien arrosés, dégénèrent souvent en bruyantes altercations. Et la journée qui a commencé sur une note pieuse se termine dans des cris de guerre, comme quoi la ferveur religieuse ou l'accomplissement d'un rite n'est pas une indication d'une vraie spiritualité. Les Écritures décrivent souvent des scènes de grande activité religieuse où on ne rend pas un culte au vrai Dieu, mais qui sont des pratiques idolâtres. Ainsi, lorsqu'Akab règne sur le royaume nord d'Israël, avec sa femme Jézabel, il s'adonne à la sorcellerie et aux enchantements. Alors, le prophète Élie vient leur rendre visite pour leur annoncer un jugement. Il ne pleuvra pas jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, et il n'est pas d'humeur à changer d'avis de sitôt. Puis Élie se retire dans le désert. Une situation semblable s'est déjà produite sous la direction de Moïse quand l'Éternel le retire du palais de Pharaon parce qu'il y règne beaucoup d'activités idolâtres. Puis Dieu le place dans le désert à garder les troupeaux de son beau-père. Comme Élie, Moïse fit l'expérience qu'il est préférable de n'avoir qu'un croûton de pain sec et vivre dans la tranquillité que l'abondance assaisonnée de problèmes. En d'autres mots, les relations harmonieuses valent beaucoup mieux que les plaisirs et les richesses. Je continue le texte. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Proverbe 17, verset 2. Il est mille fois plus préférable de confier ses affaires à un serviteur fidèle plutôt qu'à un enfant de malheur, décrit plus loin dans le chapitre 19, où le maître de sagesse dit « Qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et de propre. » Proverbe 19, verset 26, comparé Proverbe 20, verset 20 et 28, verset 24. Absalom, le fils de David, assassine son demi-frère pour venger sa sœur violée par ce dernier, puis fomente un coup d'État contre son père. Avec un fils pareil, qui a besoin d'ennemis ? Heureusement pour David. À son service, il a des vaillants hommes d'une fidélité absolue et qui sont prêts à donner leur vie pour lui. David ne fut pas le seul. Plus près de chez nous, quand Napoléon Bonaparte est en campagne, sa garde personnelle a pour devise « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Je continue le texte. Le creuset est pur l'argent, le four l'or. Ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Proverbe 17, verset 3. Ce procédé de purification consiste à faire chauffer les minerais dans un creuset jusqu'à ce qu'ils fondent. Comme les scories sont plus légères que le métal, elles remontent à la surface, ce qui permet de les ôter assez facilement. Dans le même ordre d'idées, les Écritures affirment plusieurs fois que l'Éternel éprouve les cœurs. Il fait subir à ses serviteurs l'épreuve du feu, pour ainsi dire, afin d'ôter leur scorie, c'est-à-dire leurs vices et mauvaises habitudes, et ainsi purifier leur caractère afin qu'ils soient encore plus malléables à sa volonté. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre parle de ce processus quand il écrit « Actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'heure qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 6 et 7. Si un homme, plus que les autres, a vraiment subi la roche tarpienne, c'est bien Job. Et ce n'est pas pour rien qu'on a l'expression « pauvre comme Job ». Job a vécu un calvaire épouvantable, qui n'en finit pas et qui est décrit dans le livre qui porte son nom. Mais si l'Éternel l'a ainsi éprouvé, c'est pour l'épurer, pour le débarrasser de son légalisme, de sa fâcheuse tendance de se considérer juste. L'apôtre Paul aussi est affligé d'une écharde dans sa chair afin, dit-il, qu'il ne s'enfle point d'orgueil à cause des dons et des révélations extraordinaires qu'il a reçues. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La vie relativement facile que nous menons a pour contrepartie que nous n'éprouvons pas le besoin de Dieu. C'était en tout cas le problème de la nation d'Israël. En effet, dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 15, on lit que, devenu gros et gras, bien chargé d'embonpoint, il abandonna le Dieu qui l'a sauvé. Un de mes profs avait coutume de dire « L'être humain ne change que lorsqu'il est en crise ». Le creuset de la souffrance est un moyen que Dieu utilise pour corriger le caractère de ses serviteurs. Je continue le texte. Celui qui fait le mal écoute les propos des méchants, et le menteur prête l'oreille aux mauvaises langues. Proverbe 17, verset 4. En français, nous avons le dicton « Qui se ressemble, s'assemble ». Je continue. Se moquer du pauvre, c'est outrager son créateur. Et celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. Proverbe 17, verset 5. Dieu prend la défense des pauvres. Proverbe 14, verset 31, et des affligés. La nation d'Édom, voisine d'Israël, s'est réjouie et a profité de la destruction de Jérusalem par Babylone. Dieu lui adressa alors de sévères menaces qui, au fil des siècles, s'accomplirent, et le royaume d'Édom a disparu. Abdias, chapitre 10, verset 15, Ézéchiel, chapitre 35, les versets 12 et 15. Je continue le texte. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Proverbe 17, verset 6. Le poète grec, Homère, a dit « Les enfants sont la couronne des pères, comme les tours sont l'ornement des villes ». Une grande famille est un honneur pour le vieillard, et réciproquement, les fils d'un homme distingué bénéficient de la renommée de leur père. Cette fierté réciproque dépend bien sûr d'un bon climat d'entente entre les générations. Être parent n'est pas une mince affaire, car c'est à eux qu'incombe la charge d'élever leur enfant et surtout d'en faire des adultes responsables. Pour les grands-parents, la situation est différente, car ils peuvent gâter leurs petits-enfants. Et quand ils ont assez joué avec eux, ils les rendent à leur mère et retournent à une occupation plus calme. Je continue. Un langage précieux ne convient pas à une brute épaisse et grossière. Combien moins une lèvre mensongère à un homme de qualité. Proverbe 17, verset 7. Les personnes distinguées par leur naissance, leur éducation ou leur position sociale doivent plus que le commun des mortels adopter un comportement intègre qui correspond à leur rang. Un président qui s'envoie une minette dans un placard ou qui va chez elle en douce la nuit est une honte indescriptible. Je continue de lire dans le chapitre 17. Pour ceux qui les distribuent, le pot de vin agit comme une pierre précieuse. Il leur assure partout le succès. Proverbe 17, verset 8. Un peu plus loin, et dans le même chapitre, on lit « L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. » Proverbe 17, verset 23. Cette forme de corruption était une pratique répandue en Israël. Ésaïe chapitre 1, verset 23, Amos chapitre 5, verset 12. Bien qu'elle soit interdite par la loi de Moïse, dans le livre du Deutéronome, on lit « Vous ne fausserez pas le cours de la justice, vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes, et vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages et compromettent la cause des innocents. » Deutéronome chapitre 16, verset 19. Dans certains pays, on ne peut rien accomplir sans graisser la patte des fonctionnaires, comme quoi Paul est justifié de dire dans sa première épître à Timothée, au chapitre 6 et au verset 10, « L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » Je continue le texte. « Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami. » Proverbe 17, verset 9. Et au chapitre 10, le maître a déjà émis un proverbe très pratique qui dit « La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Proverbe 10, verset 12. Je continue. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Proverbe 17, les versets 10 et 11. Au 1er siècle, dans son histoire d'Alexandre le Grand, l'auteur latin Quinte Curse écrit « Le bon cheval obéit à l'ombre de la cravache. Le mauvais n'écoute même pas les ponts. » Le sage tient compte des remarques même désobligeantes qui lui sont faites. Mais le stupide croit que seul son avis est le bon, ce qui le rend imperméable à tout autre point de vue. Nous connaissons tous de tels individus, et certains d'entre eux finissent en prison. Comme un rebelle refuse généralement de se repentir tôt ou tard, il sera confronté à l'ange de la mort chargé d'exécuter le jugement de Dieu. Je continue le texte. Mieux vaut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits que de rencontrer un insensé pris d'un accès de folie. Proverbe 17, verset 12. Une maman ours, accompagnée de ses oursons, est bien plus dangereuse que le mâle. Alors, si elle les sent menacer, c'est sauf qui peut. Cependant, au vu des fous dingues qui font la une des journaux, pour avoir joué au casse-pipe avec un flingue au milieu d'une foule, il est vrai qu'on a plus de chances d'échapper à une ours en furie qu'à un forcené en pleine crise. Je continue. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Proverbe 17, verset 13. Pour faire une chose pareille, il faut vraiment être méchant comme une teigne. Et pourtant, c'est ce qu'a fait le roi David. Uri, le Hittite, est l'un de ses officiers supérieurs qui lui est dévoué corps et âme. Mais David lui pique sa femme, la met enceinte, puis manigance la mort au combat du mari gênant. Mais dans le second livre de Samuel, on lit le prophète de l'Éternel lui dit « Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille. Je vais faire venir le malheur contre toi. » De Samuel, chapitre 12, les versets 9 à 11. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je continue de lire dans le chapitre 17. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant que la dispute n'éclate. Proverbe 17, verset 14. Plus loin, au chapitre 20, on lit « Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. » Proverbe 20, verset 3. « Une petite querelle est semblable à une fissure dans un barrage. Ça n'a l'air de rien, mais présage une catastrophe. La nuit, des rixes éclatent dans les bas-fonds et les bars, et des innocents sont transformés en cadavres. Il vaut mieux ne pas se mêler d'une dispute. » Quittez les lieux et appelez la police. Je continue le texte. L'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. Ce n'est pas bon de faire payer au juste une amende et de frapper les princes alors qu'ils ont agi selon le droit. Proverbe 17, verset 15. L'Éternel est un Dieu de justice, ce qui est répété plusieurs fois plus loin. Proverbe 18, verset 5, 24, verset 23 et 25. Je continue. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Proverbe 17, verset 16. L'argent ne fait pas le bonheur et n'achète pas non plus la sagesse. Beaucoup de personnes fortunées meurent jeunes parce que, se croyant tout permis, leur arrogance les conduit tout droit au cimetière. Je continue. Un ami aime en tout temps et, quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Proverbe 17, verset 17. Plus loin, un proverbe dit « Un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Proverbe 18, verset 24. « Jonathan, le fils héritier du roi Saül, protège et avertit David quand son père lui tend un piège pour le tuer. Il fut un ami inconditionnel, alors qu'il sait que David régnera à sa place. L'une des expériences les plus douloureuses qu'on puisse faire consiste à découvrir qu'un soi-disant ami disparaît, ou pire, se transforme en Judas le jour où fait appel à lui. Ce sont les épreuves de la vie qui déterminent qui est votre véritable ami, sur qui vous pouvez vraiment compter. Je continue. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui surélève sa porte, cherche sa ruine. Proverbe 17, verset 19. L'orgueil, toujours en tête de liste des péchés capitaux, est une nouvelle fois condamné. Non seulement l'orgueil est une source de querelles, mais il provoque invariablement toutes sortes d'autres problèmes, jusqu'à la ruine financière, morale et même une mort précoce. Je continue. L'homme, au cœur tortueux, ne trouvera pas le bonheur, et celui qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Proverbe 17, verset 20. Le cœur tordu se manifeste par une langue fourchue. Jésus a dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle. » Matthieu 12, verset 34. Je continue. « Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. » Proverbe 17, verset 21. Deux mots différents sont utilisés pour insensé et sot. L'un veut dire têtu et inintéressant, et l'autre brute, épaisse, grossière et insensible. Un peu plus loin, au chapitre 17, verset 25, le maître enfonce encore le clou en écrivant « Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. » Une déclaration qu'il a déjà faite au chapitre 10, verset 1. Ses parents qui sont minés de l'intérieur à cause de la conduite insensée de leur fils illustre le proverbe suivant qui dit « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Proverbe 17, verset 22. Le mot traduit par « remède » n'apparaît qu'ici dans les Écritures. Ce proverbe est le miroir d'un autre au chapitre 15 qui dit « Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Proverbe 15, verset 13. Plusieurs autres maximes affirment d'une manière ou d'une autre le lien étroit entre le corps et l'esprit. Proverbe 15, verset 15, 30, Proverbe 18, verset 14. Du cœur, qui, pour les Hébreux, est le centre de l'individu, dépend le bien-être ou le mal de vivre de toute la personne, tant au niveau physique que psychique. Beaucoup de gens ont le cœur continuellement triste, ce qui un jour ou l'autre a une incidence néfaste sur l'organe du cœur. L'Église austère et cruelle du Moyen Âge, les guerres de religion, les persécutions sanglantes et les puritains qui font grise mine ont donné une mauvaise image de marque du christianisme. Pourtant, deux fois dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul exhorte les croyants de se réjouir. Il écrit « Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Philippiens 2, verset 18 et 4, verset 4. Je continue de lire dans le chapitre 17 des Proverbes. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. Proverbe 17, verset 23. Dans l'ancien Israël, la personne malhonnête dissimule le bakchich dans les plis que forme sa tunique, afin de pouvoir le glisser discrètement au juge inique. Celui qui fait de pareils présents sait que, sans eux, sa cause est perdue d'avance. Et celui qui les accepte s'engage à rendre une sentence tronquée. Mais il peut aussi arriver, et pas seulement dans les pays du tiers-monde, qu'il faille donner un pot de vin à un magistrat corrompu afin d'obtenir justice, ce qui est quand même un comble. Je continue. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Proverbe 17, verset 24. Matthieu 6, 33 rapporte que Jésus a dit que l'homme qui a du discernement spirituel fait du royaume de Dieu et de sa justice sa préoccupation première. Par contre, les insensés n'ont d'intérêt que pour ce qui concerne ce bas monde, comme l'argent, les distractions et les vacances. Je continue. L'homme prudent limite ses paroles, et celui qui garde son sang-froid est intelligent. Proverbe 17, verset 27. Littéralement, celui qui garde un esprit froid a du discernement. Pour utiliser un terme à la mode, il reste cool en toutes circonstances, tandis que celui qui a l'esprit surchauffé perd les pédales. Bien des proverbes adressent ce thème de la maîtrise de soi. Proverbe 14, verset 17 et 29, Proverbe 16, 32, Proverbe 25, 28 et le Proverbe 29, verset 11. Je finis de lire le chapitre 17. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Proverbe 17, verset 28. On a déjà vu l'inverse de ce proverbe qui dit « Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. » Proverbe 10, verset 19. Ça paraît logique, mais ça ne marche pas toujours. Un paysan de Vendée avait un jeune fils qui était simple d'esprit. Un jour, tous deux partent au marché pour vendre des pommes. Avant d'aller faire quelques emplettes, le père dit « Fiston, ne parle à personne, sinon on saura tout de suite que tu es niais. » C'est alors qu'un homme s'approche de la carriole et demande « Combien les pommes ?» Pas de réponse. L'homme répète sa question trois fois, mais le fils le regarde sans piper mot. Finalement, l'homme lui dit « Mais qu'est-ce que tu as? Tu es stupide ou quoi ?» Puis il s'en va. Quand le père revient, il demande à l'enfant « Alors, comment ça s'est passé ?»« Eh bien, je suis resté bouche cousue, comme tu m'avais dit. Mais on a quand même découvert que j'étais bête. » Mis à part cette anecdote, le sage sait tenir tout son corps en bride, son comportement et surtout sa langue. Assez consolateur de malheur. Le pauvre Job a dit « Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. » Job 13, verset 5. Six siècles après le règne de Salomon, un philosophe grec, Théophraste, 372 à 287 avant Jésus-Christ, a exprimé cette même idée. Lors d'un festin, il a dit à un homme qui s'était emmuré dans un profond silence « Si vous êtes savant, vous ne vous conduisez pas avec sagesse, mais si vous ne l'êtes pas, vous agissez prudemment. » Motus est bouche cousue, avec un grand sourire et la première ligne de défense contre sa propre stupidité.